Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 212. Mon nom est Paul Landrio et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous notre collaborateur Olivier Bouchard. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Yeah.
Nous enregistrons en ce matin de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, bonne Saint-Jean à tous.
Hey, c'est rare qu'on enregistre le matin. Là. Si on est tous désaxés et tout croche, c'est parce que c'est le matin.
Ben ouais, c'est surtout un lendemain de fête. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait de quoi en rapport avec la culture québécoise. Là, Pascal, tu me disais que non, tu avais écouté Docteur Zhivago hier soir.
Non, mais en même temps, mais j'ai fait d'autres choses par rapport qui est plus en lien avec la culture québécoise. Mais c'est parce que ça qui arrive, c'est que, tu sais, je veux dire, de la musique québécoise...
On en écoute à l'année quand même.
On en écoute aussi un peu à l'année, fait que, tu sais, d'une certaine façon... Ça a pas trop changé ma diète, là. Quoique, j'ai écouté le nouvel album de Claude Pelgag, fucking
ouais,
bon.
Oui, c'est ça. À part d'écouter le nouveau Claude Pelgag, là, rien de québécois de mon
bord
non plus.
Bon, mais c'est déjà très bon, c'est déjà très bon. Ouais.
Hier, c'est cool. Nous, on écoutait un peu, c'est ça, la musique québécoise. Puis là, on a glissé tranquillement vers le karaoké sur YouTube. Puis ensuite, on s'est mis à écouter comme des vidéoclips québécois. Puis c'est cool parce que, tu sais, j'ai plus vraiment cette habitude-là d'écouter des vidéoclips québécois. Puis il y en a quand même des très bons, des fois. Tu sais, chose que je faisais vraiment là, beaucoup, là, comme 14 ans environ, là, à écouter les top 5 franco-anglo à Musique Plus et compagnie. Là. Donc, c'est cool. Puis, tu sais, on est tombé sur un vidéoclip en année, puis c'est Maxime Giroux qui avait réalisé un truc. Puis, j'ai comme, ah, tiens, un nom que je reconnais. Puis, c'était le fun de voir des vidéoclips québécois. Ah. Donc, voilà. Olivier Bouchard, tu es bien sûr critique pour Point de vue, également pour Cinéphilique. On travaille ensemble chez Diffuse et tu as aussi un petit hobby à temps partiel. Tu commences un peu à faire des jeux vidéo.
Ouais. Yeah.
Ça fait comme déjà 2 ans, je pense, que tu as commencé
À peu près 2 ans, en fait. C'est pas la première fois que j'essaie d'en faire, mais j'en ai livré un pour la première fois, ça fait 2 ans. Puis là, j'ai développé un autre prototype, puis un autre projet qui est supposé sortir l'année prochaine.
Mmh. Moi, très, très fan, Olivier, ton premier jeu, là, c'est comme un peu du Donnersfeld en jeu vidéo. Là.
En mode interactif.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment le même genre d'illustration assez naïve, mais il y a quand même tout le fond, le background psychologique. Là, tu parles de dépression dans ton premier...
Existentialiste, là.
Ouais, c'est ça, mais...
Ouais,
c'est
en même temps super drôle, là, par bout, là, puis très con, mais en même temps, je sais pas, qui joue entre les deux niveaux, là.
C'est vraiment profond, là, tu sais, il y a vraiment beaucoup de... Dans cette naïveté-là, il y a énormément de profondeur, en fait, c'est vraiment, vraiment bon. Comment ça s'appelle, déjà, le premier jeu?
C'est ça, le premier jeu, il est gratuit sur Steam, en fait, qui s'appelle A Game About, fait qu'un jeu à propos, puis le titre change, là, mais c'est une longue histoire. Puis le prochain s'appelle Please Hold Me, qui est aussi... la page est sur Steam, mais il n'est pas encore sorti.
OK, nice. Donc, ah bon, on va checker ça.
Et est-ce que tu as une date de sortie prévue, ou c'est cette année, ou on ne sait pas?
Ça va dépendre, parce que je suis supposé pitcher à du monde en début septembre, en début d'automne. Là, c'est sûr qu'avec le virus, ça a un peu changé les plans, là. Fait que ça dépend si je me fais backer par du monde, est-ce qu'on va faire un marketing plus grand ou non, en fait.
Okay.
Est-ce que je le lance juste de moi-même tout seul, parce qu'il risque d'être prêt d'ici la fin de l'année, là. Mais c'est de voir combien de temps je veux faire du marketing avec.
Puis, super, on va suivre ça. Oui, vas-y, Pascal.
Non, mais c'est ça, c'est cool, en fait. Puis, tu sais, je sais que toi, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, puis qu'on se parle, puis tu revendiquais beaucoup le côté artistique, tu sais, veux pas, des jeux vidéo, puis, tu sais, c'est intéressant un peu comment, peut-être, tu sais, ton parcours de cinéphile, finalement, de critique de cinéma se traduit dans le jeu vidéo. Tu dis, tu sais, comment tu dirais que les deux mondes se mergent ou se répondent ou se parlent? Ou...
Ben, je veux dire, moi, c'est clairement évident que je fais des jeux... Le principe de la routine, fait que tu sais, j'ai le premier texte que j'ai écrit pour Point de vue, c'était sur Jeanne Dielman, fait que c'est clair que le cinéma d'Ackerman m'influence beaucoup, le cinéma de Donnersfeld aussi. Ça vient rejoindre parce que je trouve qu'un des gros problèmes des jeux vidéo en ce moment, c'est que l'écriture est très plus proche de la prose et de la télé, en fait.
Okay.
C'est très surécrit, en fait, d'une certaine manière. Tout le monde parle tout le temps, c'est très explicatif et tout ça, tandis que moi, je viens d'une écriture plus de cinéma, donc je vais écrire vraiment plus des dialogues ou juste des textes qui sont plus courts, qui sont plus punchy d'une certaine manière, en fait.
Okay.
Puis Moi, c'est vraiment dans le type d'écriture que ça m'influence, en fait.
Tu dirais-tu en fait que les jeux vidéo se sont finalement trop rapprochés du cinéma? Parce que, tu sais, il y a une période quand même où les jeux vidéo c'était plus naïf, puis c'était plus comme sur disons, les contrôles, puis c'était plus sur
l'expérience.
Ouais, l'expérience du jeu plus que sur le storytelling. Puis à un moment donné, ils ont réalisé que les gens trippaient sur le storytelling, mais là, ils sont rendus full on. C'est presque un film auquel que tu joues. Est-ce que tu penses qu'on est rendu trop proche du cinéma, puis c'est peut-être le problème?
Là, je veux pas partir dans le long trip.
Ah, de ben jeux vidéo vas-y, là, on est là pour ça.
Parce que, en plus, il y a Last of Us 2 qui vient de sortir, puis je joue à fond là-dedans, puis ça, c'en est un qui essaye de se prendre pour un film, mais où,
ouais,
que,
ouais.
Comme, je veux dire, la violence est réaliste, mais tu tues 850 personnes, genre, vu que ça reste un jeu vidéo, fait que ça fait aucun sens, comme le gameplay puis l'histoire fit pas ensemble. Sauf que, je suis d'accord que dans les jeux à gros budget, on essaie de viser trop sur le spectacle, mais c'est comme une... faudrait pas dire, en fait, que les jeux vidéo ont comme perdu de leur unicité, en fait, parce qu'il y a beaucoup de studios indépendants qui, avec l'Internet...
Il y a un vrai underground, là, dans la création de jeux vidéo.
Il y a un vrai underground, puis ça a permis à des artistes, des gens seuls ou des personnes, des équipes petites, en fait, de sortir des jeux... ou que là, le côté interactif est vraiment en phase avec la narration. Puis ça fait des trucs vraiment plus intéressants.
OK, nice, nice.
Et sinon, Olivier, aussi, on n'a pas eu la chance de se parler publiquement, là, donc depuis le début du confinement et tout. Et évidemment, on souhaite que ça s'est bien passé, puis que tu n'as eu personne de près de toi qui a été touché par le virus. Puis comment ça l'a un peu... Comment tu vas déjà et comment ce confinement-là a impacté un peu ton regard de cinéphile, tes habitudes de cinéphile?
Ben non, mais pour vrai, je veux pas dire que le confinement était une bonne chose en général, mais au niveau de la cinéphilie, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de comme prendre le temps de rattraper des films que ça faisait longtemps que je voulais voir, mais qui étaient trop longs ou qui étaient trop bizarres, ou j'avais jamais le mood... pour les voir, ça m'a permis vraiment de programmer. Fait que pendant un mois, moi j'ai recommencé à travailler après un mois, là, fait que j'ai juste arrêté le travail pendant un mois. Mais pendant un mois, j'étais vraiment un film assez exigeant par jour, plus 4 heures de programmation, plus beaucoup de lecture, des affaires comme ça. Fait que c'était vraiment le beat. Tu sais, j'étais complètement tout seul, fait que j'étais vraiment dans mon cerveau, dans le beat solitaire, artiste un peu, à faire mes propres affaires.
T'as-tu un film, mettons, là, que t'as découvert, un truc exigeant, là, que tu pourrais conseiller aux gens?
Ouais, ben j'ai pris le temps de regarder Le Guerre épais de Sergei Bondarchuk, en fait. Si vous connaissez pas l'histoire, en fait, King Vidor réalisait une adaptation de Guerre épais de Tolstoï aux États-Unis, qui a été un gros succès, puis les Russes n'ont pas trouvé ça drôle, fait qu'ils ont décidé de réappliquer en faisant leur grand... chef-d'œuvre avec tout l'argent qu'il y avait. Fait que c'est un des films...
Ça, c'est à l'époque de l'Union soviétique.
Ouais, c'est à l'époque de l'Union soviétique. Le film a été sorti en 60...
60-quelque, là.
Ouais, je pense... 66.
66.
Puis, ça a été le film le plus coûteux de l'histoire à ce moment-là. C'est encore un des films les plus coûteux de l'histoire si on considère...
Le salaire que ça coûterait pour les figurants aussi. Là,
puis, c'est ça, il y a une affaire de 12 000 figurants dans les scènes de guerre. Puis c'est un film qui est quand même assez bordélique, là, d'une certaine manière, mais ça en met vraiment plein la vue. Puis comme film spectacle, il n'y a rien qui ressemble à ça. Parce que, je veux dire, ils sacraient l'argent par les fenêtres. Là, ils font brûler une fosse ville au complet. T'as des champs contre-champs de conversation où t'as 800 figurants derrière qui sont en train de se battre avec les chevaux puis toute la patente. C'est vraiment impressionnant à un niveau qu'il n'y a rien qui ressemble à ça.
Ouais, puis c'est en quatre parties.
C'est-tu
vraiment défini ou c'est, ouais, c'est comme un tout?
Ouais, non, c'est quatre films de 2 heures, en fait. Il a été sorti en quatre films aux États-Unis, là, mais tout ça.
Et là, il y a une édition de Criterion qui est sortie. Je pense qu'il doit être disponible sur le Criterion Channel.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai regardé sur le Criterion Channel et il y a un Blu-ray.
Super. On fait pas ça toujours, mais on pourrait peut-être souligner aussi, il y a comme deux grandes figures du cinéma qui nous ont quittés récemment. Le réalisateur Joel Schumacher. Puis, ça a été, bon, à chaque fois qu'il y a comme un artiste comme ça qui nous quitte, c'est l'occasion peut-être de... revoir sa filmographie, puis de revenir un peu, puis se dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Puis moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas vu beaucoup de ses films, mais les quelques films que j'ai vus, j'ai bien apprécié. Notamment parce que je sais qu'il y a d'autres films plus connus puis plus populaires, mais j'ai toujours bien aimé Cabin Boot.
Front
Non, non,
Boot. Front Boot,
Phone Boot. Ouais.
Ouais.
Tu
je me
avais
suis
vraiment Kevin
mélangé
Fever
de.
dans la tête.
Ouais, non, c'est ça, je me suis mélangé.
Eli
Non,
Roth.
mais Phone Booth, avec. Qui est comme quasiment un huis clos, genre 90% du film se passe dans une cabine téléphonique à l'époque, là, tu sais, ça existait sur les coins de rue pour téléphoner, avec un jeune Colin Farrell là, dans comme le début de sa carrière, c'est comme juste avant un peu qu'il devienne un peu trop partout, là. Mais j'avais bien aimé ce trailer-là, j'aimais le concept, j'aime ça des films comme ça, très conceptuel, puis ça, j'ai trouvé ça très bien.
Hey, moi, c'est Falling Down, mon grand classique de Joel Schumacher, là. Ce film-là, je pourrais l'écouter en loop, c'est tellement, tellement bon. C'est
Je
Michael
l'avais vu,
Douglas, en fait, qui pète un plomb. Le film ouvre dans une scène de voiture où il est pris dans un embouteillage avec une mouche qui marche sur le visage. Et c'est comme en hyper gros plan sur son visage. Puis finalement, il décide juste de sortir de son char puis de comme prendre sa revanche sur la société, là, d'aller chercher ce qui lui est dû. Mais c'est comme un film sur la masculinité toxique puis les privilèges blancs. Mais comme avant le temps, c'est assez avant-gardiste, puis c'est surtout vraiment le fun à regarder. Il y a un gros message de tout ce qui va mal avec la société, mais c'est ça, mais en même temps, c'est vraiment un plaisir de voir Michael Douglas péter une coche. En français, le film s'appelle L'Enragé, donc ça dit vraiment bien ce qui se passe. Puis c'est lui, dans le fond, qui se promène dans la ville, puis il prend ce qui lui est dû, d'après lui. Donc, il va changer d'arme. Il se trouve un petit couteau qui va finalement manier une gang de rue qui l'agresse. Il va finir par récupérer un gun, un bat de baseball. Il upgrade, mais ça finit par être un homme qui fait un rampage dans une ville. Vraiment, un grand film, là, je pense. C'est le top Joel Schumacher. Puis Lost
Mais
Boys,
c'est ça.
là.
Mais c'est ça, moi aussi, ça aurait été Falling Down, mais je l'ai juste vu, je pense. Tu sais, je le voyais souvent en TQS dans mon adolescence, puis j'ai comme un peu peur de le revoir de nos jours, parce que, bon, à quel point c'est un peu en avance sur son temps, mais je sais pas sur quel côté moral il joue, là. Moi, j'ai juste le souvenir que ça me faisait rire quand j'étais adolescent, qu'il voulait absolument son déjeuner au McDo, puis qu'il pétait un plomb, mais je sais plus si c'est comme aussi drôle de nos jours, mais comme tu dis, si c'est encore critique de la masculinité toxique, ça peut être encore super intéressant.
Parce que Schumacher, sans être un grand activiste nécessairement, tu sais, c'était quand même un cinéaste, un des rares cinéastes d'Hollywood qui était ouvertement homosexuel, qui s'affichait. Puis tu sais, ça se lit dans ses films, tu sais, qu'il y a un côté queer qui apporte. Évidemment, la fameuse controverse autour de son Batman avec l'armure au téton. Là,
ouais.
mais reste que, tu sais, pourquoi pas, tu sais, je pense que ça a fait un peu, justement, mettre un peu de la subversion comme ça, un peu de l'imagerie queer à travers des films, tu sais, ultra populaires, commerciaux aux États-Unis. Donc, je me dis, c'est bien pour ça quand même.
Ouais, parce que moi, en fait, Joel Schumacher, je vous avoue que je n'ai pas vu Falling Down, donc déjà, je suis moins versé un peu dans ce cinéaste-là, mais. T'sais, moi, c'est instantanément les fucking Batman. Est-ce que c'est lui qui a ruiné Batman ou c'est lui qui a juste décidé qu'il allait juste avoir du fucking fun avec Batman? Je pense que les deux camps se parlent. T'sais, moi, je pense que Batman Forever puis surtout l'autre d'après, le my God.
Ouais.
Ils ont comme leur raison d'être. C'est comme ils sont un peu aberrants, mais dans ce genre d'aberration-là, pourquoi pas? T'sais, je sais pas. Puis ça doit être encore des films que. Un peu culte aussi, là. Ça, c'est des films que tu peux te rallier derrière les one-liners là, de Arnold, là,
ben oui.
Puis Mr. Freeze, puis d'être complètement capoté. Là.
C'est fait des vrais so bad that it's good. Là. C'est,
ouais,
ils sont le fun à regarder. C'est pas des films plates. C'est ça, on peut dire ça. Là. J'en avais pas pire. Il y a peut-être l'année passée, là, Batman and Robin, celui avec Mr. Freeze.
Ben
puis,
ouais, c'est ça.
C'est vraiment le fun pour ce que c'est. C'est des très mauvais films, mais tu sais. Tu mets ça en background, un peu drunk, là, pis ça fait vraiment la job. Mais tu sais, il y a
je
aussi...
Je crois que j'avais beaucoup...
J'allais dire aussi, il y a aussi Lost Boys, qui est peut-être dans ses grands classiques, là. C'est quand même un film assez... Ben, tu sais, pour l'époque, c'était le mélange d'horreur, la culture 80s. Puis dans celui-là, tu peux sentir aussi le côté queer. Là. C'est une gang de gars qui vivent dans une caverne ensemble. Puis dans l'ouverture du film, t'as un gars en chess qui joue du saxophone. Fait que tout est là, mais c'est vraiment un cool film. Kiefer Sutherland avec son molette blond.
Je viens de regarder là, la page IMDb de The Lost Boys, puis c'est vraiment là, je l'ai jamais vu, mais tu sais, c'est exactement là, le film là, que genre dans mes années de club vidéo, là, tu sais, je passais toujours devant, là, puis je pense que je suis passé proche 15 ouais. fois de le checker, tu sais, puis ça n'a jamais donné.
T'as manqué ta chance. Pochette
VHS.
Il y a quelque chose de, ouais, de vraiment instantanément, je sais pas, reconnaissable. On dirait que ça me ramène vraiment au club vidéo. Là. Ah, je vais racheter ça à ma watchlist, comme on dit.
Ouais, puis je l'ai pas vu depuis la sortie, mais il y a aussi 8 mm. J'avais bien aimé ça à l'époque avec Nicolas Cage. Mais c'est ça, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Là. Mais j'ai comme un bon souvenir de ça. J'aimerais ça le
réécouter. Même chose, c'est un film assez mal aimé, mais il y a comme un groupe de défendeurs 8 mm qui fait que je suis comme vraiment curieux de le voir. Quand j'étais jeune, c'est... En tout cas, pareil, c'est assez choquant comme film, là, fait que... c'est ça.
Je me rappelle, tu sais, voyons, c'était quel... C'était quoi, tu sais, les pubs, là, qui passaient, là, les trailers de films, là, quand on écoutait TQS, là? Tu sais, il y avait tout le temps... ben, c'est les trailers super écran, je pense, là, tu sais, qui passaient
film
en
de gars, film de fille! C'est ça, là?
Non, mais c'est parce que je me rappelle, parce que 8 mm, il était coté 18 ans et plus, là, fait que ça avait l'air... Puis je me rappelle très bien de la bande-annonce, là, puis tu sais, ça avait l'air vraiment... trop, là, tu sais, subversif, trop intense, là, tu sais. Mais quand j'étais un petit cul, évidemment. Fait que, mais non, je l'ai pas vu, ça aussi. Vois-tu, on découvre Joel Schumacher.
On va le redécouvrir. Et autre grande figure du cinéma, c'est Sir Ian Holm qui nous a quittés.
Oui.
Qui, pour notre génération, les plus jeunes, c'est, bon, Bilbo le Hobbit, mais tu sais, évidemment, il a fait toutes sortes
Alien.
D'autres rôles
Alien,
dans sa vie.
Ouais,
Alien,
ouais,
évidemment.
Ouais.
Donc, un grand acteur aussi de petite posture. Là, il était tout petit, mais il était comme vraiment... il apportait vraiment quelque chose dans ses films. Je trouve, c'est comme une force tranquille. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, très belle carrière lui aussi, une centaine de films.
Puis, c'est quand même The Sweet Hereafter. Là, je pense que c'est très belle performance. Je ne suis pas particulièrement un grand fan d'Atom et Goyan au passage, mais je pense que Sweet Hereafter, s'il y a un film d'Atom et Goyan qui fait quand même vraiment consensus, puis il a raison, c'est un film très puissant.
Alors, il va falloir qu'on commence à faire genre une chronique mortuaire, je pense, que parce qu'au deux jours ces temps-ci, il y a comme quelqu'un qui meurt, puis je suis comme ah, tabarnak, oh non, puis je pense qu'il va falloir qu'on ait comme un bloc mortuaire dans notre podcast, notre bloc hommage, là, c'est tellement triste, là, en tout cas.
Donc voilà, on leur souhaite un bon repos. Sinon, les salles ont commencé à rouvrir officiellement depuis lundi le 22 juin. Le gouvernement a donné son aval à Montréal, au Québec. Donc, tranquillement, pas vite, les salles se mettent en place. Il y en a certaines qui décident d'attendre un peu le temps qu'ils forment les employés, qu'ils mettent en place toutes les mesures nécessaires. Et c'est ça. Et puis, on a déjà un premier film québécois qui sort le 10 juillet, là, Target Number One de Daniel Roby. Production, je pense, québécoise-américaine avec Antoine-Olivier Pilon.
Je sais pas si t'as nommé le film, puis Pascal a ri.
Non, mais c'est un peu... Bon, tu sais, je pense que ce film-là serait un peu passé inaperçu. Là, je pense qu'il va avoir du buzz parce que c'est comme le retour du cinéma québécois en salle. Non, c'est ça. Les salles vont réouvrir bientôt. Comme j'en avais déjà parlé dans l'épisode, moi, je suis un peu ambivalent, mais en même temps, j'ai confiance que les salles vont respecter les mesures en place puis qu'on va tout faire pour protéger les gens. C'est sûr que je m'ennuie beaucoup de l'expérience collective. Et on va voir justement qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que le public va être au rendez-vous? Est-ce que ça va pouvoir mener éventuellement aussi à la reprise des festivals dans leur formule usuelle, parce que là, bon, comme Fantasia va arriver bientôt en formule en ligne, il y en a d'autres aussi qui vont être en ligne. Là, on vient d'apprendre, avant même, là, tout juste qu'on commence à enregistrer, là, apparemment, le TIFF a confirmé que ça serait une édition virtuelle cette année, avec moins de films que d'habitude.
hybride un peu. Apparemment, qu'il va avoir genre 5 jours en salle. Il va avoir des projections extérieures un peu aussi. Ils ont annoncé, je l'avais l'article, IndieWire.
Mais clairement, je pense, ça ne sera pas un TIFF comme on connaît avec les invités de tous les pays. Puis ça, la cohue sur la rue King et tout ça. Là.
Non, clairement. Mais je vais quand même les nommer parce que c'est intéressant. Là, vraiment, c'est ce matin qu'ils viennent d'annoncer la première batch de films. Puis il y a quand même le Ammonite de Francis Lee. Là. On en avait parlé dans la sélection de Cannes. Winterberg, Druck, ouais. Another Round va être là. Il y a de Cannes aussi, il y a Naomi Kawase, True Mothers. Il y a un film de Halle Berry qui fait son premier long métrage comme réalisatrice, un film qui s'appelle Bruised, qui va être là. Fait que, en tout cas, ils ont annoncé quand même quelques films, là, puis c'est intéressant. Mais, fait que ça, c'est une édition modeste vraiment sur le Slim Fast. Là. C'est vraiment c'est ça qu'on en comprend en ce moment. Mm-hmm.
Et toi, Olivier, un peu, c'est quoi ton opinion sur le retour des salles? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es prudent? Est-ce que tu es indifférent? Est-ce que...
Je pense que je vais le prendre prudent pour le moment. Surtout, okay. En tout cas, je travaille le soir, fait que ça fait déjà que j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine. Puis la majorité de mes amis, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus qu'on va peut-être pas faire le choix d'aller en salle. Je vais peut-être plus aller dans des parcs ou des affaires ou que je peux garder une certaine distance avec le monde aussi. J'ai pas nécessairement une j'espère que les cinémas, je pense que les cinémas vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour respecter les limites. Puis de toute manière, je veux dire, on ne peut pas empêcher le monde de vivre éternellement non plus. Puis je pense que c'est important d'encourager la culture comme on peut. Mais c'est ça. Puis je veux dire, j'ai tellement de films. D'avoir passé autant de temps enfermé à penser aux films puis à penser à mes projets artistiques, puis tout ça, c'est comme si toutes mes... Tu sais, j'ai vu plein de films, mais c'est comme si tous mes watchlists, puis mes playlists, puis whatever, avaient explosé de façon immense. Fait que je suis comme dans un beat de rattraper, tu sais, les classiques qu'on n'a pas vus ou les vieux films que ça fait longtemps qu'on veut voir. Puis j'ai comme l'impression que je suis parti sur cette lancée-là. Fait que moi, je vais continuer un peu dans ce beat-là pendant un petit moment, je pense.
D'ailleurs, en ce moment, aux États-Unis, on a eu le premier... tu sais, à chaque semaine, il y a toujours le box-office là, qui est très détaillé avec les chiffres précis de tous les cinémas aux États-Unis. Puis là, c'est la reprise pour la première semaine. Et en ce moment, tu sais, presque les seules salles ouvertes, dans le fond, c'est des cinéparks, des drive-in. Et les deux films top numéro 2, c'est Jurassic Park et Jaws. Parce que dans le fond, c'est
en ce moment, il n'y a pas beaucoup de... What year is this? Là?
Ouais. Non, mais c'est quand même cool. T'sais, ça prouve quand même que Spielberg, ça reste le roi du blockbuster à jamais pour toujours, là, pour le cinéma américain. Là. Fait que c'était quand même très cool. T'sais, les deux ont fait genre 1,5 million de dollars en une semaine après toutes ces décennies. Fait que c'est quand même cool. D'ailleurs, c'est très dommage, mais il y avait un projet de cinépark avec la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Avorté finalement, et ça n'aura pas lieu. Bon, tu sais, c'est dur de commenter sans vraiment être dans l'organisation pour savoir ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas dit. Là. Mais en gros, c'est ça, c'est que vu que les salles vont commencer à réouvrir, les distributeurs n'étaient pas très enclins à l'idée de présenter des films gratuitement. Ça s'est fait aussi rapidement, apparemment. Tu sais, il n'y a eu plus de consultations, tout ça. Donc, c'est un peu dommage parce qu'en plus, tu sais, si ça avait été avorté, mais qu'on l'avait pas su, on n'avait pas eu une annonce publique, tu sais, c'est une chose. Mais là, on aurait dit qu'il y avait comme une grosse annonce, un gros buzz. Tu sais, c'était comme « Ah, ça va être cool, quelle bonne idée, tu sais, justement, pour faire, pour compenser un peu en ce moment. » Puis là, finalement, ça n'aura pas lieu. Donc, un coup d'épée dans l'eau. Mais bon, au moins, les salles, ça commence à réouvrir et la vie continue son cours. Mais en attendant, on continue à voir des films à la maison. Et on en écoute plusieurs, comme on l'a dit depuis le début de l'épisode. Notamment, Olivier, un gros coup de cœur que j'ai vu. Tu as écrit un texte très élogieux sur « C'est ça le paradis » d'Elias Suleiman.
Oui, moi aussi, j'ai vu. Ouais, cool.
Et moi, c'est mon premier Suleiman, en fait. On dirait que sa réputation le précédait. Là, c'est quelqu'un qui est très aimé des cercles cinéphiles. Puis pour X raisons, j'avais jamais pris le temps d'en écouter un. Et puis là, j'ai vu ce film-là. Tourné en partie à Montréal, d'ailleurs.
C'est la même chose pour moi, en fait. C'était mon premier Suleiman, un réalisateur que je connaissais beaucoup, puis je connaissais comme les affiches de ses films à ce point de les avoir imprimées dans ma mémoire, mais j'avais jamais vu aucun de ses films. C'est donc mon premier, ce qui fait que peut-être que mon appréciation, mon coup de cœur vient aussi de la surprise, parce qu'on dit que son cinéma est un peu toujours dans le même genre. Mais ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir un coup de cœur pour le français.
Tout à fait. Et on a même ici notre Rémi Fréchette qui a fait le making-of de ce film-là.
En fait, je montais les capsules making-of. Fait que ce qui est vraiment fucké, c'est que vous avez tous vu le film, puis moi, j'ai même pas vu le film. Fait que j'avais pas le droit de regarder le film, j'avais pas le droit d'avoir des images. Elias Suleiman, en fait, pour une anecdote de coulisses, là, est ultra, ultra protecteur de son stock. Il veut avoir un regard sur toutes ses bandes-annonces, sur tout ce qui sort promotionnel sur ses films. C'était comme
ce qui est très
ultra secret. Fait que moi, tout ce que j'avais, c'était des images filmées dans les rues de Montréal, des gens qui tournent le film, puis des entrevues que j'avais réalisées avec le producteur québécois. Parce que dans le fond, c'est une coprod là, qui a été faite dans trois pays. Mm-hmm. Puis il y a une bonne partie du film qui a été faite au Québec avec Possible Média, avec Serge Noël. Fait que moi, j'avais des entrevues avec Serge Noël, puis les scènes de Montréal. Fait que c'est tout ce que j'ai vu. Mais j'ai regardé, en amont, j'ai regardé Intervention Divine pour comprendre c'était quoi son cinéma, puis voir un peu ce que c'était. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, il y a beaucoup de profondeur, mais je pense qu'il est souvent comparé à Tati. Parce que c'est le personnage silencieux, les scènes assez épiques là, des grosses mises en scène, mais pour finalement des gags qui sont comme un peu pas du slapstick, là, mais c'est des gags visuels. Tu sais, dans Intervention du Vin, il y a un tank qui explose. Là. C'est juste pour vous dire la grandeur du projet. C'est ça, là, moi j'ai même pas vu encore It Must Be Heaven parce que je me demandais encore est-ce que je le regarde en salle ou je le regarde en ligne, puis là on se retrouve au podcast, puis j'ai hâte de vous entendre.
Mais bon,
non, c'est ça, c'est tourné à l'été 2018, là, c'est ouais. À Montréal notamment, sorti à Cannes en 2019 et là maintenant sur les plateformes en ligne.
Ça, juste pour l'anecdote, en fait, je savais même pas que ça avait été tourné à Montréal quand je voyais le film. Puis le film n'annonce pas, en fait. Il essaie de nous faire passer Montréal pour New York.
C'est ça.
Mais je sais pas, moi, je trouve ça tout le temps le fun de retrouver comme sa ville dans un film comme ça. Ça rajoute comme un peu à l'aura du film de voir où que ça a été filmé, puis de reconnaître les rues, puis tout ça. Puis de pouvoir s'imaginer comme toute la mise en scène qu'il y avait derrière la caméra aussi, dans des lieux qu'on connaît, je trouve que c'est tout un plaisir, d'une certaine manière.
Oui, c'est un plaisir, mais ça te sort aussi, veux pas, un petit peu de la trame du film. Puis, tu sais, c'est une déformation qui est hyper locale, parce que c'est juste, ouais. Finalement, quasiment les Montréalais, les Québécois qui vont avoir autant cette déformation-là, mais tu sais, t'as des shots, je pense, du Parc La Fontaine, puis t'as comme des images en CGI, tu sais, de comme New York autour du Central, ouais. De Central Park.
Ouais, ils ont comme ajouté des buildings en arrière, là, ça, à travers ça, les arbres, pour donner l'illusion.
Donc, en voulant dire, c'est que l'illusion, elle est compétente dans comment elle est faite. C'est juste que, comme quand tu le sais, ben, tu vois l'illusion, tu sais, parce que tu le sais.
Ouais.
Fait que c'est ça. Puis, ma copine a même remarqué qu'il y avait un panneau arrêt. On voit un panneau, c'est pas un stop, là, c'est un arrêt. Fait que vois-tu, ça a filé entre les doigts de la direction artistique, clairement.
Mais, tu sais, à la limite, c'est tellement un film que le plaisir est presque plus intellectuel que narratif, en fait, que j'ai pas trouvé ça grave. Ça aurait comme été plus grave dans un film plus classique, d'une certaine manière.
Ah, peut-être.
Donc, synopsis rapide, là, c'est Elias Suleiman joue un peu une version de son propre rôle, donc un cinéaste palestinien qui essaye de construire et de vendre son nouveau film, C'est ça le paradis, et il va voyager donc à Palestine, Paris et New York. Et comme vous l'avez dit, c'est un personnage muet, c'est un peu l'observateur, dans le fond, qui observe le monde, la société, puis sous un peu cette couche de légèreté et d'humour, il y a quand même tout un commentaire social qui est bien présent.
Oui, puis évidemment aussi, c'est vraiment à propos, je pense, de... l'herbe est-elle plus verte chez le voisin, d'une certaine façon? Donc, ouais, le film voyage entre la Palestine, Paris, puis New York, là, New York entre guillemets, parce qu'effectivement, oui, c'est filmé à Montréal. Puis évidemment, à travers toutes les observations, ben, on se rend compte que, je sais pas, peut-être l'absurdité du monde est omniprésente, puis qu'il n'y a peut-être pas de paradis sur Terre, finalement. Là. C'est un peu ça la thèse, je pense.
Tout à fait. Parce que c'est autant sur le regard d'un Palestinien sur le monde que le monde envers un Palestinien. T'sais.
Aussi.
Parce que c'est beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être Palestinien? Olivier, pour toi, grand coup de cœur, tu disais plus une aventure intellectuelle que dramatique.
Ben oui, en fait, puis moi, la question qui m'a vraiment intéressée, en fait, c'est justement de... Ben, tu sais, c'est beaucoup à propos de c'est quoi être un cinéaste palestinien, en fait, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mm-hmm. Comme on disait, c'est un cinéaste, ben, dans ce film-là, du moins, qui s'inspire clairement de cinéastes européens, en fait, de Tati... et cinéaste américain, mais qui s'approprie quand même ces formes-là et ces discours-là pour quand même en faire quelque chose qui est propre à lui et qui est propre à la Palestine. C'est plus là que ça m'a intéressé parce que souvent on s'attend d'un cinéma, disons, politique, d'un cinéma engagé, quelque chose de plus revendicateur, direct, moins presque paisible, comme ce film-là l'est, en fait, d'une certaine manière. Puis, comme souvent, comme des personnes qui vivent dans l'oppression, qui vivent dans la guerre, dans le cinéma, vont être souvent identifiées de la même... d'une... J'ai la misère à l'exprimer, là, mais va être identifié, on va... Le cinéma palestinien, ça va être souvent associé à un cinéma de guerre, un cinéma de violence, un cinéma de martyr. Puis ça, c'est vraiment un cinéma qui dit, non, je veux faire un film palestinien tout de même, mais je veux qu'on se fasse du fun, je veux regarder le monde, mais aussi mon pays, en fait, avec un plaisir. Puis qu'est-ce qui... de nous présenter ces gens-là en ayant du plaisir, en fait. Ce qui est un point de vue rare. Puis moi, c'est beaucoup ça qui est venu me chercher, en fait, dans ce film-là.
Ben, il y a même une scène clé, tu sais, qui met ce discours-là en abîme. Tu sais, je veux dire, il y a une scène où c'est à Paris, dans la portion médiane du film, puis tu sais, un producteur qui lui dit carrément « Ah ben, on aime vraiment ton travail », tout ça, tu sais, on s'imagine que c'est peut-être pour des collaborateurs financiers potentiels, puis finalement, il se fait un peu refuser parce que, au dire du français en question, tu sais, ce serait pas assez palestinien. Donc, d'une certaine façon, tu sais, ça cache peut-être que lui doit être Elias Lehmann est probablement épuisé qu'on fétichise la souffrance de son peuple, tu sais, un peu comme qu'elle soit mise un peu en spectacle d'une façon misérabiliste, parce que clairement, c'est ça le paradis, fait pas du tout ça. Puis c'est intéressant. Bon, évidemment, la scène est un peu on the nose, mais pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas,
Mais,
c'est ça.
si je peux dire aussi, en fait, je pense que c'est aussi le fait d'assumer qu'il y a un cinéma qui vient d'où il vient, parce qu'il y a une histoire avec Intervention divine, il avait fait la shortlist des Oscars, mais finalement, les Oscars notaient pas que la Palestine est un État en soi. Donc, le film n'avait pas été sélectionné aux Oscars parce que... Ouais, c'est ça. Puis, il y a toute une grosse controverse qu'il y a eu. Puis, finalement, il y a eu des gens qui ont comme... militer là, contre ça, là, je sais pas comment le dire, là, mais qui ont, dans le fond, qui ont poussé pour que le film soit
la
pris.
Chose,
puis c'est l'année d'après que le film a été considéré, puis finalement, il a pas été dans les 5 retenus. Mais tu sais, l'année qui était censée être considérée, il a pas été retenu, il y a eu toute la grosse controverse. Puis c'est l'année d'après, fait que il a toujours été balancé comme quoi, genre, ton cinéma palestinien, ben c'est pas vraiment un cinéma national. Fait que je pense que c'est aussi dans
c'est
cette affirmation-là aussi.
Ça va être assez schizophrénique de se faire dire ça, là.
C'est clair,
bon, moi,
que
par
c'est...
contre, c'est...
Ouais, excuse-moi. C'est clair que c'est pas très subtil comme elle l'amène, mais je veux dire, c'est le geste qui est plus important que de l'exprimer, en fait.
Ouais, non, c'est ça.
Non, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est ça, mon bémol principal, en fait, c'est que c'est pas très subtil, finalement. C'est très beau. Le rythme, il est le fun. Je pense que le montage et tout, il y a vraiment comme des fois des blagues qui t'amènent vers un punch et qui te le montrent pas. Puis ça, des fois, c'est plus drôle que de l'avoir montré. Il y a vraiment un rythme particulier là, qui prend peut-être un peu d'adaptation, mais qu'une fois que tu es dedans, c'est très le fun. Ça fait très BD aussi, un peu intellectuel. Avec, mettons, juste une page, c'est un gag, là, parce qu'il y a beaucoup, en fait, de scènes que c'est comme 3-4 plans, puis le gag finit, puis on passe à autre chose. Fait que c'est ça, c'est très succession de scénettes, là. Un peu comme un Kitano aussi pouvait le faire, là, notamment dans l'été de Kikujiro. Là. Je pense que Kitano et Tati, je pense un peu des points de repère peut-être là, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec son cinéma. Mais au final, je trouve juste que c'est quand même assez gros. Là, comme, non seulement bon, l'humour de comme des trucs un peu slapstick-esque, mais aussi finalement le discours, c'est quoi? C'est genre. Les Américains sont violents, puis les Parisiennes sont jolies. Tu sais, c'est pas très, très raffiné, mais en même temps, ça fait de quoi qui est ultra accessible aussi. Donc, tu sais, c'est genre de. Tu sais, il y a des films de Cannes, des fois, qui sortent que t'es comme, je pourrais jamais montrer ça, mettons, à ma famille. Tu sais, c'est trop bizarre ou peu importe. Tu sais, ça, c'est vraiment un film, on l'écoutait en groupe. Puis, tu sais, c'est vraiment un film qui est plaisant, qui fait sourire, qui est amusant. Mais pour moi, ça a peut-être pas été là, l'espèce de grandes révélations auxquelles je m'attendais de par sa réputation auprès des cinéphiles.
Ouais, peut-être. Ben, oui, je t'entends. Je pense que là où je suis un peu partagé par rapport à ça. Moi, par contre, là où il me gagne, peut-être plus qu'un autre, ça c'est ma subjectivité assumée, mais tout ce qui s'approche de près ou de loin au musical, les chorégraphies de police, là, ou genre sur des, des segways, des overboards, ou peu importe, mais tu sais, moi, tout ce qui touche de près ou de loin à quelque chose de très musical et chorégraphique, on dirait que moi, ça me gagne. Il y a comme, c'est un cinéma qui finalement ose la magie. Puis la magie fait un grand bout de chemin pour moi. Moi, ultimement, je suis peut-être un peu entre vous deux, là, parce que je suis d'accord intellectuellement. On dirait que ça n'a pas été aussi satisfaisant pour les raisons un peu que tu viens énumérer, Paul. Mais moi, il y a vraiment la. Puis c'est l'humour dans le contretemps aussi, là, tu l'as mentionné, mais le petit côté offbeat, justement, là, de décaler de cet humour-là, fait du bien. Je trouve quand même qu'il est voué à être toujours étiqueté, le Jacques Tati palestinien. C'est un peu triste, c'est comme clairement dans ses thèmes, ce qu'il veut dire, il y a quelque chose qui lui est 100% propre, mais il y a quelque chose qui nous ramène malgré nous constamment à Tati. Puis ça, ça m'empêche de le mettre vraiment là, dans la catégorie des grands originaux. Là. C'est plate, là, puis j'aimerais ça pouvoir le mettre là. Puis je pense que dans ses thèmes, il est là. Dans son regard, il est là, mais
c'est dans la forme. Tu sais, il se met en scène, il joue un personnage silencieux, c'est de l'humour visuel, fait que c'est comme, la comparaison est trop facile.
Elle est trop là, puis on faisait tellement tout le temps la comparaison, mettons, Matthew Rankin avec Guy Madden, mais t'écoutes le 20e siècle, puis je trouve vraiment que Matthew Rankin, tout à coup, il a réussi à faire, il est devenu Matthew Rankin, vraiment à plus, là, à s'affranchir. On dirait que peut-être Kelly Slimane, peut-être s'il était plus prolifique finalement, parce qu'il fait finalement des films, puis ça c'est pas contre lui, chacun son rythme, là, mais c'est qu'il fait des films quand même très espacés dans le temps. Il en a pas fait tant que ça non plus, hein, tu sais, il y a pas un body of work, il a pas fait 15 films là, du tout. Donc je sais pas, peut-être qu'en étant plus prolifique puis en continuant en martelant ce style-là, il va s'en affranchir. Je ne sais trop.
Ces films sont trop coûteux, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'un des projets aussi visuels, ça prend du budget. Là. Il a pas pu se payer New York, mais il a transformé Montréal en New York. Il a tellement des visions de grandeur. Puis c'est, comme je disais, là, dans Intervention Divine, il fait exploser un tank. Ces films coûtent cher parce qu'il peut pas sortir de ça. C'est ça son style.
Puis il y a des plans parés dans celui-là qui demandent un certain budget, là. Il a vidé des rues complètement de Paris pour pouvoir faire son truc. Là.
Pour faire passer des tanks.
Dans le fond, chapeau, tu sais. Ouais. Moi, je pense que je n'ai jamais condamné. Ouais. C'est ça, c'est que je n'ai jamais condamné l'ambition d'un cinéaste. Puis Tati, on revient à lui, mais il y a eu le même problème avec Playtime. C'est le film qui l'a coulé dans un sens, mais en même temps, c'est peut-être son chef-d'œuvre. Donc, si on a Tati comme modèle, c'est-tu vraiment la pire des choses? Je pense pas. Là. Un peu comme De Palma, mettons, l'héritier spirituel d'Hitchcock. Je veux dire, il y a manière d'être vraiment comme associé à un autre cinéaste. Puis c'est correct, dans le sens que c'est un beau modèle justement à suivre. Donc voilà, c'est ça, Le Paradis est disponible en location sur les plateformes principales de visionnement. Autre gros film aussi que je pense que vous avez vu, les gars, moi j'ai pas eu le temps de l'écouter, King of Staten Island de Judd Apatow.
Ah, je pense qu'il y a juste moi qui l'ai écouté.
Non, ben, je l'ai pas vu encore.
Ouais. Ouais, ben je vais dresser ça très rapidement. Je pense que c'est je vends peut-être la mèche, mais c'est The Five Bloods que Rémi a vu aussi, puis moi aussi j'ai vu.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais.
Mais hey, je vous en fais un topo très 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 rapide. Puis je disais un peu ça même en boutade là, dans notre petit messenger de groupe. Je pense que Judd Apatow, c'est le Apatow, en tout cas je sais pas comment on le prononce.
Apatow.
Tu
dis un client.
On va le faire comme ça avec un point d'exclamation. Judd Apatow. Je pense que c'est le plus constant dans les 7 sur 10 des cinéastes. Dans le sens, moi, je lui donnerais, je pense, jamais un 8. Puis peut-être le seul 6 que je lui donnerais, c'est Knocked Up. Je pense que c'est peut-être son moins bon film.
Hey, moi, moins que ça. Je trouve ça tellement immoral, ce petit film-là. J'haïs ça, non, là.
Tant que ça.
Oh my God, tu sais, c'est comme deux personnes qui se ressemblent pas pantoute, qui couchent ensemble un soir. La fille tombe enceinte, puis décide de le garder, puis décide de faire marcher leur relation autour d'un kid. Puis, genre, spoiler, là, le film se termine où ils ont le bébé pis ils font « Je suis sûr que ça va marcher, toi pis moi. » Genre, ce film-là, s'il y avait un sequel, ça ouvrirait avec un divorce, là. Il y a aucune chance que cette relation-là marche pis ils essayent de nous faire croire que c'est cute les deux ensemble. C'est tellement, tellement irresponsable comme film, là. Moi, je déteste ça, là.
C'est un peu l'impression qu'il me donne maintenant, parce que quand j'étais plus jeune, genre, j'aimais vraiment ce qu'il faisait, puis j'étais quand même de la comédie américaine intelligente, puis maintenant, il me fait l'effet d'un mec qui fait des films pour incel, genre.
Exact, c'est ça. C'est ouais, peut-être, puis sans vieillissant, j'ai eu cette... Je sais pas si c'est un changement de mœurs aussi dans la société, là.
Ouais, puis mais... j'exagère un peu, mais on dirait que c'est moral. Il fait tout le temps des films un peu moralisateurs. Bon, j'ai pas vu son dernier, fait que je peux
pas même dire, for Year Old Virgin, là, c'est...
Mais c'est ça, puis c'est tout le temps des morales qui encouragent vraiment des mentalités normatives, en fait. C'est ça qui m'énerve un peu, en fait.
Là. Ben, je suis d'accord, puis c'est ultimement, hein, c'est que c'est tout le temps... Ça flirte avec un cinéma subversif, mais c'est toujours les bonnes vieilles valeurs monogames, chrétiennes, américaine qui triomphe là, t'sais, dans ses films.
Puis je pense en fait que, tu sais, juste dire, je pense que pour moi, c'est un meilleur producteur et writer que réalisateur. Là. C'est un peu aussi le problème d'un Paul Feig là, où il va laisser ses acteurs improviser pendant 2 heures de temps, puis il va garder la tech au complet. Là. Ses films durent 2h20, mais pour des comédies vraiment basiques. Que quand il est producteur et writer, il y a comme un. Et quand il se match avec un autre esprit créatif, beaucoup en télé aussi, là, Freaks and Geeks, Girls, c'est des séries qui ont. Que pour moi, ils ont beaucoup plus de valeur que ces films. Mais en tout cas, opinion très personnelle, là, mais je sais pas si King non, of Staten Island entre là-dedans.
J'ai pas revu nécessairement, effectivement, là tu viens de nommer ceux de milieu 2000, tu sais, 40-Year-Old Virgin puis Knocked Up. Je t'avoue que j'ai pas un regard frais. Je me rappelle que même à l'époque, Knocked Up, je le trouvais un peu sur une drôle de ligne. Là. Fait que ouais, peut-être que ça a juste continué à couler depuis le temps. Là. Ça fait seulement 13 ans, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans une société en 13 ans. Depuis. Mais arrive King of Staten Island, puis je vais le dire d'entrée de jeu, c'est un autre fucking 7 sur 10, peut-être, mais c'est peut-être son meilleur 7 sur 10, ça serait un 7 plus ou je sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est peut-être son meilleur film. Pour ce que ça vaut, là, hein, je dis ça avec quand même une certaine réserve. Ça a tous les mêmes problèmes que trop de films de Judd Apatow, là. Oh, fuck. En tout cas, c'est que. C'est trop indiscipliné, puis pas d'une façon le fun, pas d'une façon comme on aime un Harmony Korine indiscipliné ou un Cassavetes indiscipliné ou je sais pas comme quel autre que je peux nommer, mais il y a rien qui justifie que ça dure 2h15 là, de King of Staten Island. T'sais, je veux dire, c'est un film de, ben je vais vous faire un topo rapide là. On suit un genre de d'adolescent là, qui vit avec sa mère puis sa jeune sœur, mais t'sais, c'est comme un genre de fumeux de weed dans le sous-sol, mais tu sais qui flirte avec la dépression, puis il sait pas qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, puis en gros c'est vraiment juste un film ben slack sur genre quelqu'un qui se prend en main un peu, mais lentement mais sûrement, avec tous les soubresauts que ça implique, voilà, un genre de slacker là, tout croche qui un genre de rédemption autour de ce personnage-là, j'imagine.
Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vraiment beaucoup basé sur la vraie vie de Pete Davidson.
Bon. Ouais, ben c'est ça, j'y venais aussi. Puis d'ailleurs, il est très bon. Je pense que c'est un des grands points bonis du film. Là. Je trouve que lui, il est très bien révélé, puis il est très bien... Non, ça passe super, super bien. Encore une fois, je l'ai dit, il dure 2h15. Tu sais, là, souvent, là, un beau scénario bien construit en 3 actes, tu sais, le low point, là, tu sais, genre la fin du 2e acte où tout va mal, tu sais, c'est souvent, mettons, à une demi-heure de la fin, là, tu sais, même des fois quand t'écoutes une comédie ou un drame américain formaté, je fais la joke, là, genre, je check tout le temps le running time quand le personnage est à son plus bas, puis c'est comme, invariablement, ou presque, c'est à une demi-heure de la fin. Ben, Judd Apatow, là, c'est comme, c'est à 1 heure de la fin, c'est ce low point-là, puis c'est parce que, c'est vraiment important de le dire parce que, c'est tellement plus à propos de la rédemption. Tu sais, le dernier acte où finalement tu reboucles les ficelles, tu renoues avec tous ceux à qui t'as fait du tort, tu finis par atterrir sur tes pieds malgré toi. C'est quasiment la moitié du film. Puis, fait, son 3e acte, il est vraiment trop long. Puis je pense que c'est révélateur des intérêts du cinéaste. En fait, ça trahit finalement, peut-être oui, c'est ça. C'est vraiment sur des personnages problématiques qui se reprennent en main, puis finalement, c'est quasiment la moitié du film dans ce cas-ci. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'attendrissant, quelque chose de pas trop forcé aussi, donc comme je disais, dans cette espèce d'indiscipline-là, avec ce personnage-là, je trouvais que ça collait étrangement bien. Puis ouais, ben écoute, je passerai pas 1000 ans à en parler, mais moi, ça a été une belle surprise, j'avais pas des grosses attentes, puis ça a peut-être fini paraître mon films de lui que je préfère. Donc, juste ne pas complètement le discarter. Là, je pense qu'il peut gagner certains fans avec ce film.
7 sur 10, Pascal? De...
Hein?
7 sur 10?
Ah, ben c'est un 7. Hein? Bon, ouais, c'est un 7. Mais, tu... mais c'est un 7. Que... Mais c'est un 7. Parce que, mettons, Trainwreck, je pense que j'aurais donné un 7 sur 10, mais je m'en rappelle fuck all. Comme, il m'a zéro marqué. Fait que probablement que c'est pas si bon que ça. Puis il y a d'autres films de lui comme... mettons Noctop et 40 Year Old Virgin m'ont mille fois plus marqué, mais c'est des films peut-être plus problématiques ou des films que j'aime peut-être moins. Puis lui, je pense que, ben, le temps le dira, mais je pense que c'est un heureux mélange. C'est un film assez unique. Je pense pas que je vais l'oublier de sitôt. Puis finalement, la recette Judd fonctionne bien. Fait que voilà.
Surtout comme on disait dans l'épisode, mais tu sais, en temps de confinement, on prend un peu ce qui passe. Là. Donc, peut-être que ce film-là, justement, profite de certains déserts au niveau des sorties pour se démarquer. Là.
Peut-être.
Un autre gros film qui est sorti en VOD récemment, mais là, on parle d'un film peut-être plus attendu, c'est le nouvel opus, le nouveau joint de Spike Lee, The Five Bloods, une production Netflix. Donc, disponible dès maintenant là, sur Netflix, partout dans le monde. Je ne l'ai pas vu, mais en gros, c'est sur le Vietnam du point de vue d'un bataillon d'Afro-Américains, c'est bien ça?
Ouais, Rémi, tiens.
Ouais, ben, en fait, c'est des anciens camarades de guerre qui se retrouvent au Vietnam, qui partent pour des retrouvailles, mais aussi pour une genre de chasse au trésor. Puis ouais. Le film est ponctué de flashbacks de eux au Vietnam. Donc, c'est comme un montage parallèle entre eux maintenant et eux dans le passé. Puis, il y a justement un jeu là, avec le ratio de l'écran qui va agrémenter tout ça là, pour nous faire passer d'une dimension à une autre. Puis c'est un film assez massif, hein, c'est un 2h30 quand même, très dense et très éclaté, avec beaucoup de liberté narrative, beaucoup de liberté esthétique, qui va être, je pense, peut-être problématique pour certains, mais moi, ça m'a vraiment charmé tout ça, même si ça manque beaucoup de subtilité par bout, là.
God!
Ouais,
c'est
Spike Lee, pas le plus facile.
Je m'en attendais que ça parte. Subtil, ouais.
Non, c'est
parce
ça.
Parce que là, justement, avec Black Klansman, il revenait en force, là, Spike Lee, c'était un des, ouais. des films les plus engagés, enragé et réussi de sa carrière,
oui, moi, je crois.
Possiblement. Oui. Et là, donc, est-ce qu'il continue sur sa belle lancée avec The Five Bloods?
Tu sais, il y a même un des personnages, en fait, que c'est un noir qui a voté pour Trump, puis qui porte sa calotte Make America Great Again. Fait que c'est à ce point ancré dans l'actualité présentement. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant à ce niveau-là parce que je pense que c'était nécessaire de parler de ça. C'est un sujet assez tabou, là, les Noirs qui votent pour Trump. Puis ce personnage-là, c'est probablement le plus intéressant du film, à mon avis.
De loin, là. C'est quasiment le seul que tu peux donner des adjectifs pour le caractériser, pour vrai, là.
Moi, je dirais pas jusque-là, mais. Ah ouais? Mais, tu sais, c'est un truc qui est assez tabou. Puis Spike Lee, il a creusé là-dedans, mais il est allé chercher une sensibilité chez ce personnage-là, qui nous fait peut-être comprendre un peu le regard de pourquoi justement un noir allait voter pour Trump, qui est ouvertement raciste.
Ouais, ben il est fâché, c'est ça. C'est, je pense qu'il fait le parallèle que c'est quelqu'un qui a comme pas de voix, puis qui a beaucoup de haine en lui, finalement. Il y a comme une accumulation de rage. Puis qu'il fait le parallèle direct entre, j'imagine, l'Américain moyen qui vote pour le Donald, puis finalement la rage qui est dans toi, finalement. C'est assez intéressant, ça, là-dessus, je suis d'accord.
Mais moi, le côté qui manquait un peu de subtilité, c'est que c'est surtout dans le début du film, en fait, disons dans la première demi-heure, il y a énormément d'images d'archives qui sont comme pas intégrées organiquement dans le film. Donc, on coupe à une image d'archive, puis il y a un sous-titre qui explique c'est quoi l'archive. Mais tu sais, c'est un film de fiction où... on va couper à ça, mais c'est pas... Puis même dans les dialogues des personnages, des fois, ils vont parler d'un noir qui s'est fait tuer dans une manifestation, mais ils vont littéralement raconter l'histoire de ce gars-là entre eux, entre les personnages. Donc sans que ça soit intégré dans la conversation,
ouais,
c'est ça. On va vous expliquer l'histoire de ce gars-là. Ça, au début, en première demi-heure, j'ai eu un peu peur que ça reste sur cette tangente-là. Je comprends que c'était important à rajouter dans le film, mais je trouvais que c'était... c'était peut-être pas fait de la bonne façon, puis ça faisait juste étirer le running time. Pis c'est toutes des informations que j'aurais facilement compris avec ces personnages sans qu'ils me l'expliquent directement. Puis même le film, sans dévoiler rien, mais le film va se conclure sur des images d'archives encore, puis... C'est le bout le plus faible, là, d'après moi. Là. C'est comme s'ils ne décidaient pas entre faire un documentaire ou une fiction, où pourtant le côté fiction est vraiment très réussi.
C'est un aspect justement qui était fascinant dans Black Landsman.
Exactement.
Rupture à la toute fin. Et c'est sûr que nous, en tant que Canadiens, on a peut-être un autre regard là-dessus, puis on ne vit pas le quotidien qui se passe au sud de la frontière. Mais je me demande vraiment peut-être que ce film-là, c'est comme un film d'autant plus important en cette année électorale qui sort maintenant. Là,
ben écoute, moi, je trouve que la meilleure affaire du film, c'est le poster. Là. J'ai vraiment pas aimé ça. Là.
Oh my god,
ah,
ok.
Ouais, j'ai eu vraiment de la misère. Puis en plus, Black Klansman était dans mes films favoris là, de la dernière année. Je pense que Spike Lee. Puis même, tu sais, Chirac, qui est un film bordélique, mais qui est comme. Je trouvais vraiment qu'il y a un pouls. Spike Lee contemporain. Bon, dans Five Bloods, il y a quand même un pouls. J'avoue que comme c'est un film vivant, là, on va y donner ça.
Hey, ça prend des risques, là, sérieux. Là. Moi, je trouve que c'est un manque de structure, mais moi j'ai eu vraiment beaucoup de sympathie pour ces personnages-là. Puis, il y a des bouts aussi, tu sais, même... Parce que tu as des parallèles avec la guerre, mais eux, dans leur recherche, aussi, vont tomber sur différents trucs dans la jungle. Puis j'ai eu quelques moments où j'étais thrilled, là, quand même, là, que je pognais le beat. Ça me rentrait dans le corps quand même, mais...
Ah ouais, hey, ok, parce que moi, je l'ai pas vécu comme ça. Tu sais, moi, mettons, il y a comme une première scène de flashback de Vietnam. Et bon, il y a un parti pris esthétique quand même assez intéressant, dans le sens, les comédiens qui se jouent âgés. Dans les flashbacks là, qui se passent en 1971, c'est les mêmes comédiens là, qui se jouent. Donc, évidemment, c'est peut-être pour ça le jeu de aspect ratio. Puis il a tourné des scènes en Super 16 aussi. Je pense qu'il a utilisé beaucoup de trucs quand même relativement simples et visuels et esthétiques pour qu'on comprenne bien la storyline, parce que c'est justement, sinon il pourrait peut-être avoir une certaine confusion là.
Il n'a pas utilisé la technologie révolutionnaire de Irishman pour rajeunir les acteurs.
Non. Puis ça, c'est correct. Là. C'est vraiment ça, on le prend. Ah oui, une autre bonne chose, la trame sonore, c'est quasiment que des chansons de Marvin Gaye. Là. Parce qu'en 1971, c'était What's Going On de Marvin Gaye. Puis en tout cas, il y a comme une grosse référence, palette musicale en référence à ça, puis qui est très bien.
Le score, il y a quelques bouts, par exemple, que ça me gossait. Le score avait l'air... Il y a quelques scènes où le score est juste plaqué sur les scènes, mais on dirait qu'il n'y a comme aucune symbiose avec le ce qui se passe dans la scène. Là. C'est juste une musique qui a été composée sur le site et qui a été collée. J'avais ce feeling-là par bout.
Ouais, j'y arrivais. Tu sais, je pense que la première scène comme de guerre, là, le premier flashback, c'est là où je pense que tu peux montrer genre This is Vietnam. Là, tu sais. Puis Dieu sait que les films de Vietnam, la barre est haute. Tu sais, je veux dire... entre Deer Hunter, Apocalypse Now, Platoon, puis je veux dire, nommons-les, là, tu sais, je pense que s'il n'y a pas une guerre qui a été... Ben, tu sais, la deuxième guerre, il y a eu un milliard de films qui ont été faits là-dessus, là. Bon, j'exagère, mais à peine. Mais, tu sais, le Vietnam, il y a eu des immenses œuvres. Puis, fait que c'est des grosses bottines, il faut que tu fasses de quoi de différent. Le ton Spike Lee est apprécié, parce que oui, c'est différent, mais il y a comme une première scène de combat, là, genre, où on est au Vietnam, puis... la comparaison fait mal. Puis, d'autant plus dans la musique, là, tu sais, j'étais comme... Il y a comme une musique pseudo, un genre de score orchestral pseudo-héroïque, là, comme quand t'as justement ces hommes-là qui se battent dans la jungle, puis qui gonnent finalement des Vietcong, tu sais. Fait que, tu sais, moi, en fait, on perd instantanément. On peut plus faire un film de guerre où on promouvoit l'héroïsme. Moi, là, je suis désolé, en 2020, ça passe plus. C'est mes films de guerre préférés. Ils versent vers le nihilisme, le misérabilisme, puis l'horreur, là, tu sais. Quand Malick le fait avec un certain lyrisme, ça peut encore passer, j'imagine, mais genre... Vendez-moi pas des héros, là. Je les gobrerai pas. Je suis désolé, là. Ma subjectivité est assumée là-dessus. Puis, fait que là, ben oui, tu sais, c'est cool là, qu'il y ait eu des combattants afro-américains. Je leur enlève rien. Mm-hmm. Mais je veux dire, vends-moi pas. Là, on est revenu à sauver le soldat Ryan ou je sais pas quoi. Cette espèce de regard-là là, du héros qui. Oh my god.
Ben, et moi, j'ai vraiment pas vu ça de même, en fait. Je trouvais justement qu'ils ont tellement de... Ils font ce voyage-là pour se racheter certains trucs, mais ils vont pas finalement pas trouver ce qu'ils vont chercher là-bas. Ouais. J'avais plus ce feeling-là que c'est... c'est pas complètement positif comme perspective. Là. Ils se prennent pour des héros, mais finalement, ils ont jamais eu cette médaille-là.
J'avoue. Puis, tu sais, il y a quand même la critique. Je pense qu'il y a des personnages. Comme l'héritage de la guerre du Vietnam est perçu aussi avec un regard contemporain. Puis, tu vois que c'est des cicatrices qui peinent à guérir aussi. Puis, je pense que le film fait pas l'apologie du Vietnam.
En fait, film, c'est exactement. Tu sais, c'est à propos de justement, eux, ils ont fait autant de mal au peuple vietnamien que les Blancs ont fait de mal aux Noirs. C'était comme ça, c'est ça la grosse comparaison qui est pas mal dans ta face, mais qui est, tu sais, c'est toutes les blessures qu'ils ont faites à un autre peuple, comme eux, ils ont souffert de leur côté. Mm-hmm. Puis, mais moi, en fait, c'était pas les héros qui me gossaient, mais le méchant, là, Jean Reno, il est épouvantable. Puis il y a des scènes où il parle en français. Oui, Jean Reno est dans le film. Il est tellement mauvais, là, mais il y a des scènes où il parle en français, puis Spike Lee, probablement qu'il n'a pas pu le diriger en français, mais il est juste mauvais. Là. On dirait qu'il parle pas comme quelqu'un qui existe. C'est tellement nul à chier. J'étais comme content au début de voir Jean Reno, mais finalement,
T'es pas content longtemps.
Mais, sans l'avoir vu, on dirait que sur le papier, pour jouer un peu l'avocat du diable, mais je trouve ça vraiment intéressant de... Puis tu sais, c'est un peu le projet de Spike Lee dans sa carrière, mais de se réapproprier justement un événement et un genre, tu sais, le genre de guerre justement, qui est très associé justement à la culture blanche, tu sais. Puis de remplacer la musique de, tu sais, peut-être CCR ou des Rolling Stones, qui est beaucoup associée au Vietnam, dans le cinéma de guerre. Ouais. Avec la musique de Martin Gaye et tout ça, tu sais, je trouve que c'est comme des bons flashs, des bonnes idées. Puis ne serait-ce que pour ça, c'est comme, tu sais, tant mieux, tu sais, de proposer autre chose.
Non, mais je suis d'accord, mais il y a d'autres problèmes. Je trouve que les acteurs jouent vraiment gros. Tu parlais de direction d'acteur, c'est pas juste Jean Reno le problème, là. Je trouve qu'il y a vraiment d'autres problèmes là-dessus. Là, lui qui joue le fils là, de Delroy Lindo, là. Ça, c'est lui qui s'en tire le mieux, là. Lui, justement, qui est un personnage plus conflictuel, justement, là, lui qui a voté pour Trump.
Il est tellement bon, moi j'ai trouvé incroyable ce comédien.
Ah oui, c'est ça. Mais en fait, moi je trouvais, à mon œil, à moi, c'était le seul qui était bon dans une galerie d'acteurs là, qui pataugeait. Là. Fait que, tu sais, en tout cas. Puis, je veux dire, il y a comme un personnage qui a genre une genre de femme là, vietnamienne. Là.
Une genre de femme.
C'est vraiment un tricky territory là, aussi. Là. Puis j'ai vraiment pas trouvé ça convaincant. Elle a un rôle mince comme une feuille de papier, puis c'est en tout cas. Je sais pas, man. Moi, je suis vraiment du camp des grands sceptiques, puis je trouvais qu'il sortait vraiment d'une cure de jouvence. Je trouvais vraiment que Black Klansman avait quelque chose.
J'ai un problème avec ça, avec la forme, avec plein de trucs bien détaillés, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de scènes fortes, de moments forts dans le film, assez qui vont comme me rester pour un bout. Fait que pour moi, ça, c'est la réussite du film. C'est des moments uniques dans le film qui m'ont marqué, des parties pris esthétiques où il est allé à fond, des monologues à la caméra, il y a vraiment des beaux trips de mise en scène. C'est le bout qui a fait que j'ai vraiment embarqué. C'est peut-être aussi le fait que je viens de me taper 6 films d'horreur de série B vraiment douteux, qu'on va peut-être parler, mais tu sais, je sortais de ça puis je me tape de Five Bloods, fait que peut-être que mes attentes sont vraiment ailleurs, là, mais moi, j'ai bien aimé ça, mais je t'entends aussi, je suis d'accord qu'il y a énormément de problèmes dans le film malgré tout.
Puis reste que je trouve, tu sais, Spike Lee est quelqu'un d'extrêmement prolifique, puis ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un comme ça qui brasse les cartes, qui vient un peu, tu sais, nous cracher au visage, puis tu sais, un peu comme, tu sais, je dis pas que c'est son équivalent, mais tu sais, un Pierre Falardeau au Québec peut-être, là, qui était toujours là, très politique, puis que toujours en train de remettre en question les décisions, les politiciens, tout ça. Tu sais, on s'ennuie des fois de Pierre Falardeau. J'aimerais ça voir un de ses films, là, prendre l'affiche, là, puis parler un peu contre justement l'espèce de les nombreux problèmes qu'il y a ici également. Là, Robert Morin fait aussi de plusieurs manières. T'sais. Mais bref, moi je suis content de suivre la carrière de Spike Lee, j'ai hâte de voir celui-là, puis j'aimerais ça que ça attaque à d'autres genres encore, là, qu'il fasse des genres très blancs, là, un western là, juste avec des acteurs noirs. Là,
ah oui, cool, oui, c'est là. Ça, puis... Ouais. Non, ben oui, puis tu sais, peut-être de la sci-fi. Je sais pas, tu sais, effectivement, tu sais, un peu comme un, ben, veux, veux pas, un peu comme un Woody Allen, j'imagine, tu sais, c'est le fun de voir comment il attaque tel ou tel ou tel genre, un peu, mais à sa sauce, puis il y a définitivement une sauce, puis tu sais, c'est Spike Lee, je veux dire, il n'est pas plus coloré, c'est un personnage, il a définitivement sa place dans l'histoire du cinéma, puis il n'est pas à un film que j'aime pas. En voulant dire, comme si son body of work est intouchable d'une certaine façon. Tu sais,
ouais,
j'ai pas aimé The Five Bloods, mais donne-moi un prochain film de Spike Lee, puis c'est bon. Je pense qu'il fut un temps où il était moins excitant, mais je trouve vraiment, vois-tu, Chirac, puis Black
Panther. Il a retrouvé son mojo, là.
Mais il y a comme une livrée des films où on le sent presque plus investi. Dit que The Five Bloods, c'est comme, ben, vous en parlez comme si c'était un peu un bordel, mais en même temps, je veux dire, tu le vois quand même, le cinéaste, dans cette espèce de brouillon-là.
Oui,
c'est quand même
oui.
intéressant à voir, tu sais.
Ah, ben, oui, à tout le moins, s'il y a ça, hein. Puis, je suis en train de le déconseiller, I guess, aussi. Tu sais, je trouve qu'il attaque quand même de front plusieurs sujets intéressants. Le pitch sur papier est super intéressant aussi. Pour moi, c'est des gros problèmes d'exécution, là, je trouve que c'est... Mmh.
Potentiellement que le film, tu sais, vu que... J'imagine qu'il voulait absolument le sortir cet été, pendant que, justement, se jouent les votes et les stratégies pour les prochaines élections aux États-Unis.
Ouais.
Donc, peut-être que ça, c'est le genre de film qui avait vraiment un deadline établi à cause de la réalité. Et donc, tu sais, le temps qui aurait peut-être passé à le peaufiner dans un autre projet moins collé sur l'actualité, ça aurait peut-être donné quoi de plus... que comme peut-être un Black Landsman a peut-être bénéficié de... Mais ça, on ne le saura jamais, là, on n'était pas sur le tournage, là, mais...
Ouais.
Mais il y a des détails dans la réalisation qui m'ont vraiment... Il y a des défauts, en fait, qui sont devenus des qualités pour moi. Il y a comme une pause de montage au début. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, avec un... Enfin, comme il y a comme un câlin là, qui est donné. Là. Puis il y a comme une pause de montage weird avec ça. Puis c'est comme des cues qu'ils te donnent pour plus tard dans le film. Mais c'est des clins d'œil qui fait que tu t'en souviens. Mais c'est tout dans la réalisation, puis dans le montage, puis dans la façon qu'ils travaillent ces shots. Moi, je sais pas. Là, je trouve qu'il y a quand même... Il y a quand même vraiment un parti pris qui est super intéressant. Puis... Je voudrais juste dire aussi qu'il y a beaucoup de films de lui qui sont disponibles sur Netflix, puis je me suis tapé pendant le confinement She's Gotta Have It, son premier film qu'il a fait en 86, puis c'est comme des films assez révolutionnaires pour l'époque, c'est un peu dans la vibe du... Bon, c'est fait en 86, mais c'est dans la vibe des cinéastes qui ont commencé là, fin 80, début 90, des films en noir et blanc, ultra low budget, mais c'est à propos d'une femme à Brooklyn qui a trois amants, puis elle choisit de pas se mettre en couple, mais les gars essaient d'y mettre la pression d'être en couple avec un d'eux, puis de faire un choix. Mais tu sais, elle veut pas, elle veut vivre son indépendance. Tu sais, c'est un sujet qu'en 86, c'est tellement c'est tellement tabou, puis il amène ça d'une façon encore avec ses monologues à la caméra, puis il y a tellement de fougue dans son cinéma qu'il y a encore aujourd'hui dans The Five Bloods, mais qu'il y avait déjà dans She's Gotta Have It.
Ben, c'est l'exemple même d'un cinéaste qui est parti de chapeau de roue, tu sais, puis un peu dans la même époque, tu sais, aussi, mettons, un Soderbergh ou un Tarantino,
c'est
tous des cinéastes qui sont partis, là, vraiment, c'est ça, sur les chapeaux de roue, puis qui ont changé un peu le cinéma américain. Tu sais, combien de cinéastes peuvent se vanter d'avoir... une technique ou un plan qui porte leur nom, tu sais. Le fameux travelling Spike Lee, là, d'un personnage assis sur une chaise puis qui bouge seul, là. Ça, c'est le plan Spike Lee, là, tu sais. Comme tu peux dire le zoom arrière, travelling avant à la Hitchcock ou...
Ouais, ou le plan de coffre de char de Tarantino, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a comme... C'est... Non, c'est sûr. C'est sûr. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai.
Donc voilà, c'est disponible dès maintenant sur Netflix et c'est déjà sur ma watchlist. Je vais écouter ça dans les prochains jours. Sinon, shout-out, Rémi, on s'en voudrait de ne pas mentionner le titre d'un des films que tu as vu récemment.
Attends. Mais je vais y aller bien vite. Je sais qu'on est en fin d'épisode, là. Mais je veux quand même juste mettre en contexte.
Je me suis tapé
une bonne partie de la filmographie d'un cinéaste méconnu qui s'appelle Brian Yuzna, puis là c'est le bout où je vous demanderais, connaissez-vous Brian Yuzna, puis c'est le bout où vous me dites non, parce que je sais que vous allez me dire non, parce que c'est notamment à travers la plateforme Tubi. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais c'est une plateforme gratuite que ça a comme passé en dehors de mon radar complètement, cette plateforme-là. En gros, c'est une plateforme gratuite à la Netflix. Il y a calissement du stock là-dessus. Autant du bon stock que du stock très mauvais. Ça attire dans tous les sens. Mais le prix à payer, c'est que vous devez regarder des pubs. Puis le nombre de pubs, le ratio de pubs, ça dépend en fait de la popularité du film. Fait que moi, j'écoute des films super obscurs là-dessus. Fait que j'ai comme une pub aux demi-heures. Là, c'est vraiment pas si pire. Puis... bon, je comprends qu'on regardera peut-être pas des classiques du cinéma là-dessus, là, parce que tu veux peut-être pas te faire interrompre par deux pubs de comment ça s'appelle, de DoorDash ou des affaires de livraison de bouffe, là. Moi, c'est ça qui pop, là, ça, puis Last of Us. Mais quand tu vis avec, là, sérieusement, là, la programmation est assez malade. Il y a entre autres une section Arrow. Puis tu sais, les DVD Arrow, les Blu-ray Arrow, c'est comme le Criterion, mais des films plus cultes, obscurs. Puis il y a une grosse section avec tous des films que j'ai déjà pensé à m'acheter, à payer plein prix 40$. Ben là, ils sont là sur Tubi, fait que je suis vraiment très heureux. Bref, à travers Tubi...
On remercie Tubi qui commande cet épisode.
Non, mais sérieux, moi, c'était une belle surprise, puis ça m'a comme ouvert un champ de possibilités en tombant là-dessus. Puis un soir, en fait, juste pour le trip, je me suis dit, je vais me taper la suite de Reanimator. Il y a Bride of the Reanimator qui est dans la section Arrow, fait qu'une belle restauration qui était disponible. Puis j'avais entendu dire que Bride of the Reanimator, c'était quand même pas pire pour une suite de films d'horreur. Là, on s'entend que tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes, c'est relativement au genre de film. Fait que si vous aimez pas les films d'horreur, oubliez moi qui encense Brian Yuzna. Donc, grosso modo, Brian Yuzna, c'était le producteur de Reanimator et ça a été le producteur de beaucoup de films de Stuart Gordon. Puis le co-writer aussi, donc il a co-écrit The Beyond, il a co-écrit The Reanimator. Puis comme réalisateur, son premier gros hit c'était Society qui a été fait en 89, qui est un film là, bourgeoisie versus petit peuple. Là, la bourgeoisie, c'est des espèces de mutants qui vont s'abreuver des corps et de la vitalité des gens qui sont en dessous d'eux. Puis c'est un film crissement cool avec une scène épique là, de body horror. Ceci lui a mené à réaliser Bride of the Reanimator et l'a mené à réaliser une série de films par la suite, beaucoup de suites. Il a fait Silent Night, Deadly Night 4, Return of the Living Dead 3. Il a fait aussi Beyond the Reanimator qui est le troisième et il a fait un duo de films assez sympathique qui s'appelle The Dentist et The Dentist 2 Brace Yourself. Ça c'est le titre, The Dentist 2 Brace Yourself, fait que tout ça pour arriver à ce point-ci. Mais en tout cas, je pense que c'était juste pour mentionner le titre.
Ceci dit, par contre, The Dentist là, je veux dire, l'idée même de faire un film d'horreur, c'est un dentiste, c'est quand
l'idée
même...
L'idée est bonne.
C'est un beau terrain de jeu, là.
Ouais, puis ce que j'ai lu, c'est qu'il est en compétition en même temps avec Tobey Hooper, qui voulait aussi faire un film de dentiste-tueur. Fait que les deux s'affrontaient pendant cette période-là, puis Stuart Gordon était censé réaliser The Dentist, mais c'est heureusement Brian Yuzna qui l'a fait. Je peux pas plus encenser ce cinéaste-là qui est complètement passé dans l'oubli, là. Il y a une réalisation là, énergique avec des sujets complètement idiots. Il va prendre la suite, le troisième Return of the Living Dead, puis il fait un truc tellement cool avec une caméra qui est très énergique, avec tu sais, c'est il vise le cool factor là. Donc il va avec du gros gore, des personnages super colorés, on s'ennuie pas une seconde. Puis The Dentist là, tu sais, si t'aimes pas les films d'horreur, tu vas lire ça là, mais pour moi c'était comme l'idée la plus conne qui aurait pu être le plus sous-exploité, mais il est tellement créatif dans ce qu'il fait que finalement tu t'emmerdes pas pendant une seconde, pendant l'heure et demie que ça dure. Ça ouvre avec comme un show d'ombre chinoise où le dentiste il fait ses procédures de dentaire, ses opérations, mais
en ombre chinoise. L'imagination au spectateur. Là,
ouais, c'est ça. Puis bon, mais c'est comme un dentiste qui sombre dans la folie. Je pourrais le comparer à un Falling Down, là, si on veut boucler la boucle de l'épisode, là, mais c'est un Falling Down, mais avec un dentiste qui pète un plomb parce qu'il voit que sa blonde le trompe, puis il commence à virer fou, puis dans son cabinet, ben, il commence à faire des opérations qui va scraper la bouche des patients. Il y a des hallucinations, puis là, il commence à faire des chirurgies buccales. Ça se passe comme dans un laps de temps d'une journée et demie.
Ah ouais.
Fait qu'on s'en va sur le cringe factor, puis sur qu'est-ce qui fait mal au public. Mais ouais, c'est vraiment crazy. Si vous avez la chance juste d'aller voir les bandes annonces au pire de Brian Yuzna, là, sérieusement, là, il y a comme quelque chose à aller tirer de lui, mais voilà, je peux pas le recommander, disons, à un large public. C'est
assez niché. Ton enthousiasme est marqué, Rémi.
Hey, mais j'ai du fun, puis là, j'étais sur Tubi, en fait, puis là, j'ai remarqué, hey, il y a un autre film de Brian Yuzna. Hey, on va le taper, fait que finalement, j'ai écouté comme 6 films de Brian Yuzna back-to-back, puis après ça, j'étais arrivé à The Five Bloods, puis j'étais comme, hey, ça, c'est un masterpiece. Ça, c'est ma conclusion.
Bon, ben.
Voilà.
Wow.
Un bon cinéaste qui rentre dans ta palette.
Oui. Oh!
Fait que en attendant un éventuel peut-être cheval noir d'honneur, c'est quoi le prix que vous remettez à Fantasia?
Le prix cheval noir.
Cheval noir d'honneur.
Mais tu sais, il y a comme Brian Yuzna, il a réalisé 2-3 films dans les années 2000, mais c'est sa grosse période, c'est les années 90, là, où il faisait un ou même des fois 2 films par année. Là. Il était ultra prolifique. Puis là, je pense qu'il est plus en production. Ou tu sais, il a vraiment sorti du système américain. Il est rendu à Barcelone. Fait que il y a comme une belle période, mais moi, en tout cas, je fais un high five virtuel. Tu sais, s'il nous écoute, là, s'il écoute Point de vue, puis qu'il se rend à la fin de cet épisode-là, salut Brian, je te respecte énormément.
Qui comprend l'accent québécois. Là.
Ouais, c'est ça.
Ben super, écoutez, c'était notre point de vue cette semaine. Nous, on va se quitter sur la bande-annonce. Un truc qui a le potentiel d'être massif, les amis, je ne sais pas si vous avez vu les images. Mais il y a la fameuse série télé basée sur Fondation de Isaac Asimov, production de Apple TV+. Ça fait des années que c'est en cours, là, cette production-là. Ça va sortir en 2021, finalement, vu que le tournage a été donc en arrêt en ce moment à cause de la pandémie. Mais les livres, c'est vraiment des livres cultes de science-fiction. Là. C'est comme un de mes livres préférés aussi. Et j'ai très hâte de voir ça. D'abord, non, ça promet. Là, ça a l'air de. Il y a du budget, ça a l'air d'être. C'est très beau. Donc, beaucoup d'espoir pour ça. Mais on va attendre de voir la série avant de lancer les fleurs. Donc, la série Fondation. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot. Merci beaucoup, Olivier Bouchard, d'avoir été des
nôtres. Merci. Ça fait plaisir.
Ah ouais, c'est le fun, Olivier.
Et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Blanc.
Going to arrest me tomorrow. And you. It's almost a certainty. You're familiar with my work, psychohistory?
Yes, in theory, but I don't know what it has to do
with. It's not a theory.
They're worried you can predict the future.
People believe I can. And they don't like the future I predict.
The Empire will fall. Order will vanish. This mass of events rushing to meet us.
Only we can shorten the darkness.